Bienvenue à Écoutez bien, un balado de Statistique Canada où nous rencontrons les personnes derrière les données et découvrons les histoires qu'elles révèlent. Je suis votre animatrice, Annick Lepage. L'Internet n'est plus ce qu'il était à ses débuts. Et je pense que même si deux personnes utilisent l'Internet en même temps, elles font l'expérience de deux Internets différents. Les algorithmes devinent ce que vous voulez voir, ce sur quoi vous voulez cliquer, ce que vous voulez acheter. Votre Internet n'est pas le mien et l'Internet d'aujourd'hui n'est certainement pas celui d'hier. Une nouvelle analyse de Statistique Canada révèle des résultats alarmants sur l'expérience en ligne des jeunes Canadiens. Pour discuter de ce sujet, nous accueillons Samuel Perrault, studio.
Samuel Perrault, analyste au Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités de Statistique Canada.
Les jeunes sont-ils exposés à davantage de contenu en ligne, disons préoccupant, que l'utilisateur moyen?
Par rapport à la moyenne, oui, définitivement. Déjà, les jeunes sont beaucoup plus sur Internet, quoique de nos jours, presque tout le monde est sur Internet beaucoup, mais il y a quand même, les jeunes le sont un petit peu plus. Et quand on regarde le contenu auquel ils sont exposés, effectivement, ils sont davantage exposés à du contenu, soit de la mésinformation, de la désinformation, également de la nudité en ligne. Donc, oui, ils le sont beaucoup plus. Si on regarde juste pour ce qui est des fausses informations, c'est environ 84 %. Bon, j'ai environ, c'est très précisément, 84 % des 15 à 24 ans qui ont dit avoir vu des fausses nouvelles, des fausses informations, comparativement à 70 % pour la moyenne. Donc, c'est quand même assez significatif. En plus des fausses nouvelles, il y a aussi du contenu totalement inapproprié, comme le contenu haineux ou le contenu violent. Donc, soit du contenu qui va cibler certains groupes, qui va appeler à la violence ou qui va être carrément violent. Donc, les 15-24 ans sont le groupe qui est le plus exposé à ce type de contenu. Et quand même dans une proportion encore très significative. Donc, plus de 7 jeunes sur 10 comparativement à même pas la moitié dans la population en général. Donc, et les jeunes avec une incapacité sont encore plus exposés. C'est environ 2,5 fois plus souvent des jeunes avec une incapacité qui est exposé à ce type de contenu-là tous les jours par rapport aux autres jeunes du même groupe d'âge. On voyait cependant aucune différence là, par rapport au genre ou au groupe racisé. Donc, c'est vraiment chez les jeunes avec une incapacité qu'on voyait une telle différence.
C'est quoi la différence entre l'intimidation puis les crimes haineux?
C'est une bonne question parce que les deux s'entrecoupent. Évidemment, on peut parler d'un continuum, mais un continuum qui, à certains moments, va s'entrecouper. Donc, l'intimidation, ça va être des comportements répétitifs qui sont dans le but intentionnel de blesser une autre personne, de la dénigrer. Ça peut impliquer des actions physiques, mais également des actions verbales ou des fois des comportements plus subtils et qui vont souvent aussi impliquer des relations de pouvoir. Ceci dit, ça peut devenir criminel dans certains cas. Donc, la différence entre l'intimidation, le bullying et le harcèlement criminel peut être très mince. Et quand on parle d'action physique également, on tombe aussi dans des comportements qui peuvent être criminels. Les crimes haineux, ça peut être à la base n'importe quel crime, du moins pour l'instant. Il y a des discussions pour peut-être changer le code criminel en ce moment au Parlement, mais pour l'instant, la notion de crime motivé par la haine, c'est un facteur aggravant dans le code criminel. Donc, n'importe quel crime peut être un crime haineux. Donc, un crime va être haineux quand il est motivé par la haine d'un groupe en particulier. Donc, soit que le crime a été motivé par la haine de la race, l'origine ethnique, le genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la langue, etc. Donc, c'est la principale différence.
Les jeunes sont-ils également soupçonnés de commettre des crimes haineux en ligne?
Oui, définitivement. Donc, c'est les jeunes étaient environ un peu plus du tiers des auteurs présumés de crimes haineux en ligne étaient des jeunes. Surtout des garçons. Donc, les garçons de 12 à 17 ans représentaient 30 % de tous les auteurs présumés de tous les crimes haineux en ligne. Les filles de ce groupe d'âge représentaient 5 %, ce qui est beaucoup moins que les garçons, mais quand même significatif là, si on compare aux autres groupes d'âge. Et les 18-34 ans représentaient un autre 25 %, donc hommes et femmes combinés. Donc, définitivement, les jeunes sont souvent les auteurs présumés des crimes haineux. Donc, les victimes et les auteurs présumés.
Quels sont les défis qui sont posés par l'étude des interactions en ligne, donc la mésinformation, l'intimidation et les crimes haineux?
Ben, le principal défi, c'est d'arriver à mesurer correctement ces comportements-là. Donc, ce qui se passe sur Internet, ça évolue très rapidement. Et on le sait, construire une enquête et l'amener sur le terrain, c'est un long processus. Donc, par le temps qu'on arrive sur le terrain, que l'enquête ait lieu, il peut déjà avoir eu beaucoup d'évolution. Juste de rester à jour et trouver les bonnes questions pour mesurer ce qu'on veut mesurer, ce qui se passe sur Internet, est en soi un défi. Il peut également avoir les taux de réponse qui peuvent être des défis. Donc, on sait que les taux de réponse aux enquêtes ménages sont à la baisse depuis de nombreuses années et typiquement, les jeunes y répondent encore moins. Donc, quand on vise un sujet qui s'attarde essentiellement aux jeunes, c'est un défi supplémentaire également. Parce que pour l'instant, on se fie essentiellement sur des enquêtes ménages. Donc, on ne va pas encore dans les techniques de web scraping, pardonnez l'anglicisme. Donc, on se fie aux enquêtes ménages. Et dans le cas des crimes haineux, les données provenaient des données policières, donc les données qui sont déclarées par la police. Donc là, on ajoute une contrainte supplémentaire qu'il faut que ça ait été porté à l'attention de la police. Donc, plusieurs des comportements dont on a parlé aujourd'hui ou dans l'étude, parfois vont être des comportements qui peuvent être, sans dire qu'ils vont être mineurs, parce que c'est des comportements qui peuvent avoir des conséquences importantes pour les victimes, mais si ça n'atteint pas le seuil du code criminel, de l'acte criminel, la police ne peut rien faire. Puis, on sait également que, disons que si le crime n'est pas particulièrement grave, la police ne va pas y mettre non plus des tonnes de moyens. Donc, il y a beaucoup de ces crimes-là qui ne vont pas être déclarés à la police. Crimes ou comportements, là, en général, qui ne vont tout simplement pas être déclarés à la police, donc qui ne feront pas les données de l'enquête.
Pourquoi, selon vous, ces résultats sont-ils importants?
Ben déjà, les résultats ont été publiés dans le cadre de la journée du chandail rose, qui, je pense, déjà représente, est un indicateur de l'importance. On y consacre une journée. C'est parce que ça peut avoir des conséquences assez importantes pour les victimes. Donc, quand on parle de l'intimidation en ligne, du bullying, des crimes haineux, ça peut avoir des effets dévastateurs sur les victimes, sur la confiance en soi. Certains peuvent en venir jusqu'au suicide. Donc, évidemment, c'est un enjeu important. Et de pouvoir identifier qui sont les personnes derrière, donc qui en sont les victimes et qui en sont les auteurs présumés, ça va évidemment aider à mieux cibler les politiques pour intervenir autant auprès des victimes que des auteurs présumés. Également, quand on pense à aux mauvaises informations, aussi à la désinformation, ça peut avoir des conséquences sur la démocratie, la santé de la démocratie de nos institutions. Donc là aussi, c'est des enjeux assez importants et d'actualité auxquels il est pertinent de s'attaquer. Et pour pouvoir bien s'y attaquer, bien, on a besoin d'avoir les informations pertinentes.
Alors, merci beaucoup. Vous venez d'écouter « Écoutez bien ». Merci à notre invité Samuel Perrault. Pour plus d'informations sur le sujet d'aujourd'hui, consultez l'article publié dans le quotidien du 27 février 2024 intitulé « La haine et l'agression en ligne chez les jeunes au Canada ». Vous pouvez vous abonner à cette émission à partir de tout endroit où vous accédez habituellement à vos balados. Vous y trouverez également sa version anglaise intitulée « Essayers ». Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez surtout pas à la noter, à la commenter et à vous y abonner. Merci d'avoir écouté.